tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Octobre 2014, les éditions Robert Laffont publiaient Berlin, histoire, promenade, anthologie et dictionnaire, un ouvrage sous la direction de David Sanson. Bonjour David Sanson.
Bonjour Emmanuel.
C'est un ouvrage collectif avec de nombreux auteurs, dont Denis Boquet, Boris Grésillon, Thibaut de Ruyter. Ces auteurs sont soit français, soit allemands. Ils ont la particularité d'avoir vécu à Berlin. Et vous, David Sanson, vous avez découvert Berlin en 1995. Mais avant d'être allé à Berlin, vous l'avez rêvé, cette ville?
Je l'ai rêvé parce que dans les années 80, quand j'étais adolescent, j'étais très fasciné par cette ville que j'avais découverte, d'une part par le catalogue de l'Expo Paris-Berlin au Centre Pompidou, expo qui avait eu lieu dans les années 70. Donc, je connaissais déjà la peinture expressionniste, mais ça m'a donné accès à l'architecture expressionniste, à toutes les réalisations de Dada, à la poésie expressionniste, plein de choses que j'ignorais. Donc j'avais cette image du Berlin fantasmagorique des années de la République de Weimar, le Berlin des années folles, la grande époque que tout le monde, enfin que beaucoup de gens je pense ont comme moi. Et puis j'étais aussi très fan de musique à l'époque, enfin je le suis toujours. Et c'était l'époque, les années 80, c'était l'année des Ailes du Désir, qui est un peu un film emblématique, qui est un peu le film sur Berlin, pourrait-on dire, en tout cas pour les gens de ma génération, qui met beaucoup en scène justement cette scène musicale effervescente qui pouvait être celle de la ville dans les années 80. Et voilà, c'était un peu les deux pôles entre lesquels j'évoluais. Et le fait est que, tout en étant passionné par cette ville, fasciné par cette ville dont j'avais une représentation très forte mentalement, j'ai mis vraiment du temps à y aller. Résultat, j'y suis allé trop tard. Je dirais pas que c'est trop tard, mais en tout cas après la chute du mur, alors que j'aurais bien aimé faire l'expérience de cette ville coupée en deux.
Et quand vous l'avez découverte, son ciel était rempli de grues.
Son ciel était rempli de grues, les façades étaient encore criblées d'impacts de balles. C'est toujours un petit choc pour moi à chaque fois que je viens, que je retourne là-bas, parce que notamment dans les quartiers centraux de Mitte, Prenzlauer Berg, qui sont un peu les quartiers bobos gentrifiés aujourd'hui de la ville, que j'ai vraiment connu au sortir de la RDA, enfin 5 ans après la chute du mur, donc non rénové, puisque la politique de la RDA c'était un peu de laisser se dégrader les centres historiques pour parquer les gens dans des beaux HLM en périphérie, c'est plus facile à contrôler. Donc à chaque fois que je viens et que je vois ces quartiers effectivement qui sont de plus en plus gentrifiés, peut-être aseptisés au dire de certains, je revois toujours ces ruelles avec les façades qui n'étaient pas du tout ravalées. Effectivement c'était une période en tout cas où on avait l'impression que d'abord beaucoup de choses se faisaient partout, ça bougeait, c'était vraiment une effervescence, il y avait beaucoup de clubs, il y avait beaucoup de concerts. On avait l'impression qu'il y avait la possibilité d'inventer une ville un peu nouvelle, un petit peu utopique peut-être, parce qu'il y a toujours eu une grande part d'utopie dans la perception de Berlin. Donc voilà, c'était après la chute du mur, avant l'uniformisation peut-être, après l'unification, avant l'uniformisation, c'était cet entre-deux-là, qui était plein de promesses, avec des grands moments comme le Reichstag emballé par cristaux, etc., des souvenirs quand même très forts.
Ce titre de cet ouvrage, Berlin, histoire, promenade, anthologie dictionnaire, promenade est au pluriel, c'est qu'il y a donc plusieurs Berlins.
Il y a de très nombreux Berlins, en effet. Voilà, c'est oui. En plus, c'est une ville qui est très, comment dire, qui vit beaucoup dans le fantasme aussi. Il y a Karl Scheffler au début du siècle, enfin au début du XXe siècle, à l'époque où Berlin se développait plus vite que toute autre ville dans le monde, à part Chicago. On a dit que c'était le Chicago européen. Berlin, Karl Scheffler a dit « Berlin est une ville qui est condamnée à devenir toujours et à n'être jamais, une ville en perpétuel devenir. »
En métamorphose permanente.
Exactement. Après, le XXe siècle a vraiment validé cette idée, puisque la ville n'a cessé d'être soumise aux vicissitudes de l'histoire. L'urbanisme, l'architecture à Berlin, c'est quelque chose qui est tout sauf neutre. Enfin, c'est jamais neutre, mais dans le cas de Berlin, c'est particulièrement le cas.
Et pourquoi ?
L'architecture à Berlin, elle a toujours été très très liée aux politiques, et quel que soit le moment et quelle que soit la décision qu'on prend, il y a toujours un rapport à l'histoire qui se joue en arrière-fond, que ce soit à l'époque de Frédéric II, où Frédéric II voulait construire l'Athènes de l'Achepré. L'Achepré, c'est la rivière qui coule à Berlin, donc il voulait construire une espèce de cité des Lumières idéale. Ou plus tard, dans les rêves de grandeur de Hitler avec Albert Speer, qui voulait construire Germania, une espèce de, d'immense cité. Plus après, pendant la période de la guerre froide et de la séparation, c'est ces espèces de rivalités entre les deux blocs qui se jouent aussi dans le domaine architectural avec la création du Hansa Viertel à l'ouest, où on convoque tous les grands architectes pour essayer de, enfin pour concevoir des bâtiments un peu emblématiques, tandis qu'à l'ouest, à l'est, on construit la grande Karl Marx Allee, cette immense avenue complètement stalinienne qui est très spectaculaire d'ailleurs. Enfin voilà, le rapport à l'architecture. Ça se traduit, ça continue aussi aujourd'hui avec toutes les polémiques qui ont entouré la reconstruction du château. Château qui a été le château des Hohenzollern, donc la dynastie qui a régné sur la Prusse. Château qui a été très endommagé par la guerre, qui a fini par être rasé par la RDA, pour qui a construit à la place le parlement est-allemand.
La polémique a aussi...
Qui a ensuite été rasé à son tour, et aujourd'hui on re-érige... le château des Hohenzollern. Donc voilà, c'est une vision. À chaque fois, c'est à chaque société une espèce de vision de l'histoire qui fait toujours débat, quoi qu'il arrive.
Il y a aussi tout un rapport entre vainqueur et vaincu qui se joue dans l'urbanisme et l'architecture, parce que par exemple aussi la manière dont, après la chute du mur, l'urbanisme va être aussi un enjeu pour effacer d'une certaine manière aussi les traces de l'architecture ou de l'urbanisme de la RDA, par exemple.
Oui, tout à fait. Il y a certains ministères du gouvernement actuel qui sont dans les locaux d'anciens ministères du Reich. Il y a d'autres choses d'autres témoignages de la RDA qui ont complètement été éradiqués. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, hein, sur cette reconstruction critique. Le fait est qu'effectivement, on cherche toujours à imprimer, en tout cas, une certaine vision de l'histoire.
Als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal, war der Himmel schon so groß und still und fahl. Jung und nackt und ungeheuer wundersam, wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam. Und der Himmel blieb in Lust und Kummer da, auch wenn Baal schlief, selig war und ihn nicht sah. Nachts sehr violett und trunken Baal, Baal früh fromm, eher Aprikosenbaal. In der Sünder schamvollem Gewimmel lag Baal nackt und wälzte sich voll Ruh. Nur der Himmel, aber immer Himmel, deckte mächtig seine Blöße zu. Zu den feisten Geiern blinzelt Baal hinauf, die im Sternenhimmel warten auf den Leichnam Baal. Manchmal stellt sich Baal tot, stürzt ein Geier drauf, speist Baal eine Geier stumm zum Abendmahl. Unter düstern Sternen in dem Jammertal grast Baal weite Felder schmatzend ab. Sind sie leer, dann trottet singend Baal in den ew'gen Wald zum Schlaf hinab. Und wenn Baal der dunkle Schoß hinunterzieht, was ist Welt für Baal noch? Baal ist satt. So viel Himmel hat Baal unterm Lied, dass er Tod noch grad genug Himmel hat. Als im dunklen Erdenschoße faulte Baal, war der Himmel noch so groß und still und fahl. Jung und nackt und ungeheuer wunderbar, wie ihn Baal einst liebte, als Baal war.
En 1920, donc, on décide de faire un Grand Berlin, c'est-à-dire d'annexer toute la banlieue, de sanctuariser tous les espaces verts, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a presque 50% de la surface de la ville qui est constituée de soit de lacs, soit de forêts, soit de parcs, ce qui donne une dimension extrêmement campagnarde et extrêmement détendue à cette ville. Ça m'a beaucoup impressionné. Et le fait est aussi que je pense que c'est une ville aussi où il y a quand même une tradition politique très forte, où il y a eu quand même dans les années 70 tout ce mouvement d'occupation de squatteurs, d'occupation des espaces. Et les squats sont toujours très, très actifs et fonctionnent très bien à Berlin. Enfin, c'est toujours très sidérant quand on va dans un squat à Berlin. C'est toujours, tout est très bien organisé à l'allemande, quoi. Et je pense qu'il y a... que la population arrivera, ne se laissera pas dessaisir si facilement que ça de sa ville. Il y a beaucoup de polémiques justement sur tous les mouvements de gentrification, de privatisation, etc. Mais on voit quand même qu'à chaque fois, il y a des mobilisations pour essayer de bloquer le prix des loyers, pour inventer des initiatives comme par exemple toutes les maisons qui ne sont pas vraiment des copropriétés, mais des maisons un peu collectives. Enfin, il y a un sens du collectif très très développé dont je pense qu'on devrait... dont j'espère qu'on s'inspirera.
Berlin est-il ce lieu de post-production, ce Jurassic Park du socialisme réel, une sorte de laboratoire de la décroissance où l'on pourrait, au plus près de la nature, exalter les vertus de la collectivité et la créativité et expérimenter enfin un autre rapport à la cité, au travail? La ville possède-t-elle réellement cette force d'invention qui lui permettrait de lutter contre le formatage et la gentrification à outrance et de se rêver ainsi en possible cité idéale? Ou bien, cette force d'invention n'est-elle pas plutôt une force d'inertie en passe d'être galvaudée, d'être transformée en cliché? Quelques années de gentrification auraient-elles suffi pour venir à bout de 4 décennies d'authentique contre-culture? La ville n'est-elle pas plutôt devenue, comme le prétend le philosophe Francesco Macchi, le point de non-retour de la modernité, refuge de toutes ces subjectivités fictives qui peuplent un monde fantomatique miné par la désaffection du politique? Est-elle encore une faille dans le système ou au contraire l'exemple ultime de l'hégémonie et de la massification de la culture, le théâtre caricatural de la société du spectacle? En s'unifiant, la capitale allemande se serait-elle aussi uniformisée?
J'ai beaucoup parlé de ce sujet avec Francesco Macchi qui a publié un livre qui s'appelle L'ordre règne à Berlin, oui, chez Alia, très beau petit livre dans lequel il est très 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 critique sur cette image d'Épinal qu'on peut avoir de Berlin, qui est la ville où tout le monde vient clubber le week-end, la ville où tous les artistes viennent s'installer, etc. Le fait est que dans les années 70, qui est l'époque à laquelle je fais le plus référence Boris Groys, ça pourrait s'appliquer, je pense, aux années 90. C'était une ville qui n'avait pas d'activité économique, qui vivait, qui était subventionnée ou complètement, enfin, dont la vie était soutenue de façon complètement artificielle. Mais moyennant quoi, ça a généré une effervescence artistique hors du commun. C'était une ville où beaucoup de gens venaient, ne serait-ce que parce qu'ils pouvaient échapper au service militaire, mais aussi parce qu'il y avait de l'espace, il y avait une espèce de liberté. Enfin, c'est David Bowie dans les années 70 qui quitte Los Angeles pour venir s'installer à Berlin parce qu'il a l'impression que c'est là où il peut être tel qu'en lui-même, peut-être, si tant est que David Bowie puisse être tel qu'en lui-même. Et effectivement, il y a cette utopie qui continue d'irriguer encore la mythologie de la ville. Le fait est qu'énormément d'artistes étrangers sont venus s'installer à Berlin, ne serait-ce que parce que les loyers sont d'un coût, enfin, inimaginable pour une capitale européenne. C'est un peu en train de changer. Thibaut de Ruyter, qui fait partie de ces 48 heures, a un point de vue beaucoup plus critique que moi là-dessus. Il y a beaucoup d'artistes qui partent. On dit que Leipzig est le nouvel Eldorado, que Berlin c'est bien, mais qu'il n'y a aucune possibilité vraiment de vivre de son travail. Voilà, c'est des visions très, très contradictoires. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension très utopique. Et quand on continue d'aller à Berlin aujourd'hui, quand on voit la jeunesse qui peuple les rues, quand on voit le nombre de bars, de clubs, de salles de concert, de lieux d'exposition plus ou moins alternatifs, on se dit que c'est quand même très, 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 très stimulant. Mais c'est une ville aussi qui a les ressources pour le faire, puisqu'il y a beaucoup de... C'est une ville qui est beaucoup moins peuplée que Paris et qui est 8 fois plus vaste, donc il y a des espaces. C'est les choses qui manquent dans une ville comme Paris, par exemple.
Merci beaucoup.
Merci
David
à vous.
David Sanson d'avoir participé à ces 48 heures chrono.
Merci à Radio Grenouille.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.